Et là, j'aimerais parler eh bien, de cette notion des œuvres. Donc, il y a un PowerPoint qui est là. Voilà, les œuvres incarnation du royaume. Vous savez que notre vision d'église hein, et nos visions du réseau RNC auquel on appartient, eh bien, c'est incarner le royaume de Dieu. Et dans l'église, il y a ce côté un peu particulier de l'adoration, comme moyen aussi, mais être des adorateurs, mais le but des adorateurs, c'est d'incarner le royaume. Et j'aimerais qu'on va faire un grand survol aujourd'hui pour nous encourager eh bien, à rentrer dans ces œuvres que Dieu il a pour nous. Chacun d'entre nous, j'aime souvent dire aux enseignants, mais c'est vrai pour chacun, quand Dieu a eu un projet dans son ciel, avant que tu existes, eh bien, à chaque projet, il fait naître un enfant. Et nous correspondons tous à un projet du Père. Dans cette vie et pour la vie éternelle. C'est impressionnant. Moi, une des choses qui m'a impressionné avant d'être chrétien, c'est déjà comment il y a des métiers que jamais j'aurais fait. Par exemple, dentiste. Pas si vous pensez à dentiste, toujours dans la bouche des gens. Mais je me dis, mais c'est invraisemblable. Mais comment ils ont pu avoir ce genre d'appel, quoi. Et quand vous voyez tous les métiers et tout ça, et tout s'encastre, et les gens ils ont un cœur ça, et puis ça tourne, quoi. Je suis impressionné. Et ça, c'est dans un monde qui parfois ne connaît pas Dieu. Eh bien, avec le Seigneur, c'est pareil. On a des œuvres préparées d'avance pour chacun de nous. Et dans Matthieu 15, 16, il est dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Et je crois qu'il y a des bonnes œuvres personnelles, mais il y a des bonnes œuvres pour l'Église. En tant qu'Église, il y a des œuvres préparées d'avance. Chaque Église, chaque groupe, il y a quelque chose qui est préparé, et pas seulement une chose. Et je suis convaincu que si on rentre avec détermination dans ces œuvres préparées d'avance, eh bien, on incarne le royaume. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens voient. Donc, la sagesse, c'est quelque chose de pratique, et Dieu nous a donné cette sagesse. La vision de l'Église, je rappelle, est une communauté d'adorateurs, de serviteurs, disciples de Jésus, qui œuvrent à la manifestation du royaume de Dieu dans le monde, dans la culture, en premier lieu dans le domaine de l'enseignement, l'éducation, mais aussi dans les différents domaines de la société, médias, politiques, etc. Je crois qu'il y a économie, il y a un rôle pour chacun d'œuvrer. Dans l'histoire, quelques mots, on l'a vu avec les étudiants cette semaine, vous savez, la mémoire du juste est une bénédiction, le monde des méchants tombe en pourriture. Et il y a cette idée que quand on regarde l'histoire, et quand tu regardes l'histoire, il y en a qui se disent, mais comment moi je peux savoir qu'est-ce que Dieu il a pour moi? Eh bien, une des façons de savoir, c'est regarder en arrière. Tu regardes l'œuvre de Dieu dans toute l'histoire et il y a quelques points qui vont t'interpeller, plus que d'autres. C'est souvent les points où Dieu t'appelle. Donc la connaissance historique de ce que Dieu a fait dans l'histoire permet de mieux comprendre ta destinée. C'est pour ça que c'est très important. Et Dieu nous dit, c'est comme l'homme qu'on enterrait, là, il y avait une guerre avec Israël et les Philistins, et puis on a vite creusé une tombe, et on a balancé ce cadavre sur la tombe, manque de peau, la tombe, enfin, avec chance plutôt, c'était la tombe d'Élysée, le mort touche les os d'Élysée, qu'est-ce qui se passe? Il prend une décharge, et il revit. Et ça, c'est quand même étonnant. Et bien ça, c'est quand on touche à ce que Dieu a fait dans l'histoire. Et l'histoire de l'Église, c'est un étudiant m'a interpellé, il m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas ces choses dans les Églises? Alors on va un peu en parler aujourd'hui, et le but c'est ça. Et la nuée de témoins, hein, nous sommes environnés d'une nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance. Moi c'était quand même étonnant. Quel est le lien entre regarder l'histoire et se débarrasser du péché? Il y en a qui vont dire, il faut regarder à Jésus pour être débarrassé du péché, oui, mais la Bible dit, regarde l'histoire aussi, prends conscience de toute cette nuée de témoins avant toi, et quand tu vas voir le témoignage de vie, il y a quelque chose qui te fait envie, il y a quelque chose qui te dit, je ne peux pas rester comme ça, je ne peux pas, j'ai besoin d'avancer, je veux ressembler. On a chanté tout à l'heure, je veux marquer l'histoire de mon pays. Et chaque génération est responsable de la génération dans laquelle elle vit. Et il y a des projets de Dieu pour chaque génération. Et c'est à chaque génération d'écouter, d'entendre et de rentrer dans le projet de Dieu. Et tu rentreras ou en traînant des pieds, ou alors tu rentreras en courant. Et ceux qui courent, c'est ceux qui ont la vision non seulement de Dieu, mais c'est ceux qui ont la vision de ce que Dieu a fait dans l'héritage passé. Et c'est ce qu'on veut voir rapidement. Donc l'inspiration de l'amour du Christ, des hommes, des femmes, au cours des siècles, ont été sur le front de la détresse humaine, la soulager, la servir, l'éduquer, la former, l'élever. C'est incroyable de voir, dès l'origine de l'Église, le cœur de Dieu manifesté au travers de son Église pour des actions créatrices, secours de la veuve, l'orphelin, le vieillard, l'étranger, les prisonniers, les blessés, les hôpitaux, les écoles, les universités. Tout ça, c'est né avec des gens qui ont senti le cœur de Dieu, qui ont incarné le royaume et qui se sont mis au travail pour servir l'humanité. Donc ce terreau de l'Évangile, eh bien, on n'a pas l'apanage on n'a pas le monopole du cœur, hein, comme disait un politique, nous chrétiens, on n'a pas le monopole du cœur. Mais quand même, l'Église du Seigneur a marqué, a transformé tellement de choses. Encore aujourd'hui, on est au bénéfice. Alors l'Empire romain, nous sommes au début de l'Église, et moi ce qui me touche dans ce début de l'Église, les pauvres, pour cet empire qui valorisait la violence, qui valorisait la force, si vous voulez, les pauvres étaient méprisés. Les pauvres étaient considérés, il y a un poète qui disait, le drame de la pauvreté, c'est qu'elle rend les gens ridicules. Donc, on méprisait les pauvres. Hein, c'était vraiment ça. Il y a des cultures dans le monde aujourd'hui où les pauvres, c'est ceux qui trinquent pour des vies passées. Je pense à l'hindouisme, théorie de réincarnation, etc. Donc voilà, il y a quelque chose de très... qui a été méprisé. Et les chrétiens sont arrivés là-dedans. Et les premières générations, la première marque du christianisme, ça a été s'occuper des pauvres et des orphelins. Dès le début, premier siècle, nous sommes là, après Jésus-Christ. Les écrits des pères de l'Église, tout ça, Denis de Corinthe, Justin, Tertullien, ils montrent qu'il y a la mise en commun, qu'on voit déjà à la Pentecôte, mais le partage des biens au niveau des pauvres immédiatement. Donc les collectes étaient faites de façon systématique, on ramassait, on ratissait, on disait il y a besoin pour les pauvres, et en particulier les pauvres du corps de Christ, mais aussi au-delà du corps de Christ. La foi et les œuvres. Jacques nous dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Aujourd'hui, on aurait dit se préserver des souillures du monde. Mais la vraie religion, c'est aller soulager les orphelins et les veuves. C'est impressionnant ça. Ça nous parle d'une religion d'œuvre, une religion qui marche, une religion qui va vers les autres. Jacques 1, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Et j'ai remarqué une chose, c'est que plus on est dans l'adoration, je parle des tabernacles de louange, je parle d'un climat d'adoration, plus on reçoit le cœur de Dieu pour rentrer dans des œuvres. Donc en fait, l'idéal, la maison de prière, les tabernacles, c'est pas pour pas faire d'œuvres, c'est pour saisir le cœur de Dieu. Et dans ces lieux-là, très souvent, on reçoit le cœur de Dieu pour aller et pour faire des œuvres. Attention aux œuvres que l'on fait, soi-disant pour faire plaisir à Dieu, autant ne rien faire. Mais par contre, quand Dieu nous saisit, eh bien, dans un domaine, eh bien, on va marcher avec lui et on va exprimer le royaume. Voilà. Donc les premiers siècles de l'Église, ça a parfois été des siècles de persécution. Et l'action caritative, au bout d'un moment, on ne pouvait plus aller dehors. Ce n'était plus permis, ce n'était plus possible. Donc ils ont développé au milieu de l'Église, les pauvres dans l'Église. Donc il y avait carrément les services de diaconat. On a des exemples en l'an 250. Les 7 diacres et sous-diacres des 7 districts de l'Église de Rome assistaient 1500 indigents. Donc l'Église de Rome assiste 1500 personnes. Ça, c'est... Et on peut concevoir que toutes les églises de tout le bassin méditerranéen, eh bien, ils avaient tout un service social qui était tenu par des diacres. Donc l'Église s'occupait des pauvres, et c'était organisé, c'était planifié, c'était voulu, collecte, implication dans la ville. Voilà les premières œuvres. Lactance, théologien du IIIe siècle, disait que les chrétiens portaient ainsi secours aux autres. Et les autres, c'est les païens, les non-chrétiens, etc. C'est toujours, il y a été ce cœur de Dieu au-delà de l'Église. Au temps de l'empereur Julien l'Apostat, qui voulait rétablir le paganisme, il a écrit ceci. Donc là, c'est un persécuteur de chrétiens qui écrit ceci. Lisez ça. Nous avons oublié ce que la religion chrétienne a principalement revendiqué, à savoir la philanthropie envers l'étranger, l'inlassable sollicitude d'une sépulture pour les morts et le sérieux de la vie morale. C'est une honte pour nous, et il parle nous païens, hein, que les Galiléens impies, ces chrétiens donc, hein, eh bien, nourrissent non seulement leurs pauvres, mais aussi les nôtres. Vous voyez, ça c'était... Et là, nous avons le témoignage d'un anti-chrétien. Il dit, mais ils nourrissent nos pauvres, c'est pas normal. Et il faut bouger, là. Donc l'Église des premiers siècles incarnait ce cœur de Dieu. La dimension sociale par le ministère diaconal. Au IVe siècle, on recommande aux diacres d'aller régulièrement faire le tour des hôtelleries. Donc c'est des lieux de vice, misère, c'est pas des lieux de tourisme. Voilà. Et alors, ils allaient là-dedans pour voir s'il y a des pauvres, des infirmes, des malades à l'abandon, et dans l'affirmative, de trouver dans l'église des familles aisées qui puissent les recueillir. Donc on cherchait des gens, on les mettait dans les familles, et puis c'est comme ça que ça s'est... La première église travaillait, et ce cœur de Dieu s'exprimait de cette façon. Donc dimension sociale qui va un peu décliner quand le christianisme va s'implanter en tant que religion d'État. On a un exemple de Saint Jérôme qui parle d'une certaine dame qui s'appelait Fabiola. Tout ce qu'elle pouvait acheter avec sa fortune considérable, elle le distribuait aux pauvres. Elle s'empressa de faire construire à Ostie un hospice pour les malades, dans lequel elle rassembla ceux qui traînaient dans les rues, soigna les cœurs meurtris par l'épuisement, la faim. Quelqu'un aurait-il été dans le besoin sans qu'elle le secoure immédiatement par sa générosité? Même Rome était trop petite pour sa miséricorde. Nous avons masse de témoignages comme ça, des simples femmes, des simples hommes, qui ont touché comme ça leur ville, en particulier par ce témoignage au niveau des pauvres. Au niveau du au Moyen-Âge, il y a un mouvement extraordinaire qui est le mouvement des monastères, les moines. Et moi, je me rappelle au début, je pensais que les moines, oh là là, moi je suis chrétien, mais les moines c'est quoi? C'est religieux, ils n'ont rien compris. Et quand on commence à regarder l'histoire, on voit que ces moines, quand ils priaient pour les malades, ils étaient guéris. On voit qu'ils adoraient le Seigneur 24 heures sur 24. On voit qu'ils travaillaient, qu'ils défrichaient, qu'ils cultivaient, tout ça. Tu te dis, mince, alors qu'ils faisaient des écoles, qu'ils levaient des générations. L'image qu'on avait des moines, eh bien, elle change. Et ce mouvement monastique, suite aux invasions barbares, il fallait tout reconstruire. Nous sommes au VIe siècle après Jésus-Christ. Il fallait tout rebâtir en Europe. Eh bien, ces gens, on parlait en particulier des moines irlandais, eh bien, sont partis en Europe avec cette vision de toucher tout le continent. Et ce sont des très jeunes qui sont partis. Ils sont partis avec pas grand-chose. Et ce mouvement, c'était le mouvement en particulier initié par un jeune homme qui était un enfant, qui s'appelait Patrick. Et cet enfant, un jour, il était dans l'actuelle Bretagne, il a été kidnappé par... il y avait des razzias comme ça, il était kidnappé. Et puis, il s'est retrouvé... chez ses ravisseurs, esclaves, mais il avait un atout que les autres n'avaient pas. Parce qu'à cette époque, on apprenait la Bible par cœur. Et en particulier, il avait appris les 150 psaumes par cœur. Et avant l'aube, le matin, il se levait très tôt et il se récitait les psaumes qu'il avait appris. Et ça, ça l'a tenu dans la foi. Ça l'a tellement tenu dans la foi que tous ses geôliers se sont convertis et qu'il a démarré ce mouvement monastique qui allait toucher toute l'Europe. Un jeune garçon qui avait simplement la parole dans son cœur. Ouh, les amis, là c'est... Et ces mouvements monastiques, évangélisation, implantation d'église, implantation d'école, 12 disciples dans un village, paf, on passe au village d'après. C'était une époque où on priait pour les malades. Signe, prodige, guérison. C'était vraiment la guérison, ministère de guérison a accompagné l'évangélisation de l'Europe. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, ça revient. On redécouvre un Dieu qui aime et qui veut guérir. Les ordres hospitaliers, ordre de Saint-Jean, qui ont une dimension diaconale aussi, donc accueil des pauvres, etc. Règle de Saint-Benoît, donc les règles monastiques, une de ces règles est celle-ci. À la porte de chaque monastère, on placera un vieillard sage. Aussitôt que quelqu'un frappe ou quelqu'un qu'un pauvre appelle, il répondra avec toute la douceur de la crainte de Dieu et se hâtera de répondre avec la ferveur de la charité. Donc jour et nuit, les portes des églises ouvertes pour l'accueil des pauvres et des misérables. Ça, c'est le Moyen-Âge, mes amis. C'est très fort comme action. Alors, ce n'est pas étonnant que cette culture d'Europe ait tellement été touchée par le christianisme, parce qu'il y avait vraiment une vision pour les pauvres, une vision pour les écoles, implantation d'écoles partout. Jusqu'à la Révolution française, l'Église s'est occupée, elle a mis un immense effort dans le fait de lever des jeunes. L'abbaye de Murbach, ici dans la vallée au-dessus de Bulle, là, vers Bulle, c'était un centre d'adoration, de formation formation de jeunes, formation pas seulement pour des futurs moines, hein, mais c'était formation même parfois pour des jeunes enfants qui étaient orphelins et ils étaient accueillis, formés, etc. L'Église a vraiment joué ce rôle d'éducatrice, si vous voulez. Hein. Donc voilà l'abbaye de Murbach, qui était un centre très important, implanté, encore une fois, par un moine irlandais au VIe siècle. Donc ces gars-là, c'est impressionnant. Les villes en Alsace, en Suisse, dans tout le Nord, les noms des moines, c'est devenu les noms des villes. Et si on regarde la géographie, les noms des villes, c'est impressionnant de voir combien ces jeunes hommes hein, ont bouleversé l'Europe en marchant et en allant. Et lui, c'en est un assez extraordinaire, l'évangélisation des campagnes. Donc il évangélise la Gaule, Allemagne, Suisse, Italie, stratégie, évangélisation, implantation d'églises, formation. Et dans ces formations, ces écoles ont été gratuites, hein, gratuites pour tout le monde. Mais en même temps, il y avait la parole de Dieu, l'adoration. Et les jeunes retrouvaient une identité. Le dimanche dernier, on a parlé de ce psaume qui parle « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain » et que Dieu travaillait avec des fils et des filles. Et cette identité de fils et de filles était le propre de ces écoles. Je suis impressionné par la qualité du travail qui était fait dans ces siècles. Charlemagne, qui a visité d'ailleurs l'abbaye de Murbach. Charlemagne, l'an 800, voilà ce qu'il dit, il faut établir des écoles où l'on enseigne les lettres, les saintes écritures, de telle sorte que les élèves méritent d'être appelés le sel de la terre et résistent aux hérésies comme à l'antéchrist. La parole de Dieu au cœur de tout ce réveil carolingien et des instituteurs, des formateurs, des gens qui étaient aux côtés de Charlemagne ont carrément mis en place des programmes où la parole de Dieu était au cœur. C'était la renaissance, ce qu'on appelait la renaissance carolingienne. Et chaque fois qu'il y a une renaissance, une restauration, il y a une restauration des sciences, des lettres, des arts. Ça touche tout le domaine de la culture. Et en fait, les cultes qu'on donne à Dieu touchent toute la culture. Voilà l'Empire carolingien avec les lieux d'adoration, les lieux de prière qui étaient toujours aussi des lieux de formation et de culture. Les œuvres qui impactent la culture. Alors on a parlé des œuvres pour les pauvres, mais ça allait bien au-delà. Et le mandat culturel de la Genèse, Dieu bénit, leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur le poisson de la terre, de la mer, les oiseaux du ciel, tout animal qui se met sur la terre, cultive ton jardin. » Eh bien, rappelez-vous, on le dit souvent ici, mais voilà, cultiver la culture des champs, c'est devenu le mandat que Dieu a. Et au milieu de vous, de nous, il y a peut-être des gens qui se disent « Mais moi, je ne me sens pas tellement appelé, moi, au niveau de l'Église dite instituée, mais peut-être que tu es appelé dans d'autres domaines, des domaines de la culture, des domaines de l'agriculture, qui fait partie aussi de la culture, et toutes ces œuvres que Dieu veut, œuvres d'art, œuvres littéraires, œuvres musicales, ça a été le fleuron, en particulier de la culture du Moyen-Âge. Voyez ? Donc les œuvres. Il n'y a aucun domaine de la culture, de l'univers, dont le Christ ne dise « c'est à moi ». Tout rapporté à la gloire de Dieu. Et ça, c'était la marque en particulier du Moyen-Âge, avec bien sûr des faiblesses, des zones d'ombre, des zones hein, comme chaque époque. Mais nous, on n'a rien à apprendre au Moyen-Âge. Je disais aux étudiants, notre 20e siècle, siècle des guerres mondiales, siècle des goulags, c'est ce siècle-là qui s'est permis de dire le Moyen-Âge, c'est une époque ténébreuse, de guerre, etc. Il n'y a jamais eu autant de paix qu'au Moyen-Âge, au niveau des durées de paix au niveau des nations. Hein. Il n'y a jamais eu autant de culture à la gloire de Dieu. Même la guerre était légiférée. Un gars en pleine guerre allait dans une église, on ne le tuait pas. Les prisonniers devaient être bien traités. Tout était, la marque de l'évangile a touché même tous les domaines qui paraissent aujourd'hui, mais c'est incroyable. Quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc la culture n'est jamais neutre. Toute la culture exprime un culte. Et notre culte ici, qu'on offre à Dieu, qu'on aime en tant qu'adorateur, eh bien, il veut déborder sur des œuvres, sur la culture. Je vais passer un peu vite là. Françoise d'Assise, le pauvre avec lui, pour la première, on a un retour d'une vision du pauvre comme étant honoré. Voyez, le pauvre n'est plus méprisé au temps de Françoise d'Assise, mais il est honoré. Amour des lépreux, des exclus, partage de leur vie. Donc, c'est pas un réformateur social, lui, mais il a inspiré cet esprit franciscain qui a rayonné dans toute l'Europe. C'est l'esprit de Jésus pour les plus pauvres et les plus exclus. Ça, c'est impressionnant. Ce jeune homme qui était riche, qui avait tout pour hériter, un jour, il a dit, il voyait un peu cette église qui, à cette époque, était souvent un mauvais témoignage, voyez. Mais au lieu de dire, bon, cette église est pourrie, moi je veux rien faire, je veux rien avoir avec ça, il a dit, moi je vais changer l'histoire de ma génération. Et il a posé un acte fort, il a tout vendu, il a dit à son père, maintenant je veux vivre comme les autres, comme un pauvre, dans la foi. Et c'était un, Dieu ne demande pas ça à tout le monde, mais c'est un acte, je dirais, révolutionnaire là. Naissance des universités. Les universités, nous sommes au XIIe siècle, à Paris. Ça, c'est des œuvres. C'est des œuvres de l'Église, c'est des œuvres. Et chacun de nous, on peut être que sensible à ce développement extraordinaire qu'ont été ces œuvres de la foi, ces œuvres de Dieu, dans le domaine culturel. Donc, vous voyez, il s'occupe des plus pauvres, il s'occupe des jeunes, il s'occupe de former l'élite intellectuelle aussi dans ces universités. Et vous remarquez juste une chose, ça, ce sont des enluminures. Donc, même la façon d'écrire devait être à la gloire de Dieu. Chaque livre était un livre dans la calligraphie même, tout devait refléter l'honneur qu'on attribue à Dieu dans tout ce qu'on fait. Et ça, nous voyons, tous les arts étaient des arts qui parlent. L'évangile était tellement au cœur de cette culture que tout transpirait dans cette culture. Donc voilà, juste des grands noms de ces universitaires. Et j'aimerais, voilà, vous avez ici la carte de France, peut-être je l'avais déjà montré ici. Donc Paris a été ce lieu qui a inspiré toute l'Europe, l'université. Tiens, les gens se sont dit, c'est quoi ce truc? C'est nouveau, on va voir ce que c'est. Et non seulement on va voir ce que c'est, mais on va reproduire le modèle partout. Et moi, quand je vois cette carte, je ressens l'appel de Jésus qui nous dit, enseignez une nation des disciples, faites-en des disciples. Et l'université a été un lieu d'adoration, un lieu où l'on apprend la présence de Dieu aussi, un lieu où on apprend les Écritures, un lieu où tous les futurs enseignants, les futurs juristes étaient fondés dans la parole de Dieu, un lieu où on avait une telle vision de la formation qu'être formé à cette époque, c'était rare de finir les études avant 30 ans, parce qu'il fallait faire au moins 6 ans d'études théologiques avant de faire les spécialités. C'était vraiment une vision étonnante. Et aujourd'hui, on entend « Faites des nations des disciples » et on voudrait parfois faire l'économie d'une formation. C'est vrai. Hein. Et Dieu prend des cœurs bien disposés. Il n'a pas parfois besoin de gens qui aient le bac plus 10, heureusement. Mais quand même, il y a une époque où il y avait une telle vision de la formation, de l'excellence, que je peux vous assurer que ce n'est pas étonnant qu'il y ait une culture à marque chrétienne, avec l'effort immense qui était donné pour la formation. Bonaventure, je lis encore, il faut la connaître cette citation, professeur d'université. Quand vous lisez ça, vous allez vous dire, mais à quand des professeurs d'université dans notre pays qui adorent Dieu comme celui-là? Écoutez ça. Celui que tant de splendeur crée n'illumine pas est un aveugle. Celui que tant de cris n'éveille pas est un sourd. Il parle de la création. Celui que toutes ses œuvres ne poussent pas à louer Dieu est un muet. Celui que tant de signes ne force pas à reconnaître le premier principe est un sot. Ouvre les yeux, prête l'oreille de ton âme. Délie tes lèvres, affûte ton cœur. Toutes les créatures se feront voir, entendre, louer, aimer, servir, glorifier et adorer Dieu. Ce professeur d'université, regardez ce qu'il dit. Ça, c'est une bombe, mes amis. Il dit ceci, « Rien ne peut rendre les choses parfait objet de science si ce n'est la présence du Christ, Fils de Dieu. On ne peut rien connaître dans la vie, véritablement, sans la présence de Dieu. » Ces professeurs d'université-là ont marqué toute l'Europe. Quand on parle aujourd'hui de la présence de Dieu, on en parle souvent dans les maisons de prière, dans les tabernacles de louanges, dans des cultes. Il y a une époque où on parlait de la présence de Dieu dans les universités et qui disait même on ne peut rien connaître véritablement sans la présence de Dieu. Sans la présence de cette sagesse qui est à l'origine de toute la création. Ça, c'est l'histoire de France. Ça, c'est l'histoire de Paris. C'est pas étonnant qu'il y ait tellement de combats. Et l'ennemi ne veut surtout pas que l'Église s'occupe d'œuvres. Surtout pas. Reste dans tes cultes. Ne sors surtout pas. Ne t'occupe pas d'université. Ne t'occupe pas d'éducation. Ne t'occupe pas des pauvres. Voyez ? Parce que si tu fais ça, le problème, c'est que les gens vont voir Dieu. Et alors, il y a tout qui est fait pour surtout ne pas sortir. La terre, si elle n'est éclairée par la lumière, ne peut être vue, dit-il. Pareillement, les enseignements des diverses disciplines, bien que chacun concède sans nul doute qu'ils sont parfaitement vrais, il faut croire qu'on ne pourrait les comprendre s'ils n'étaient éclairés par Dieu, comme par un soleil. Tout à l'heure, on chantait sur le soleil, sur la lumière, la lumière de Dieu qui éclaire tout. Tout le champ de la connaissance est éclairé par la lumière. Voyez. Et voilà la multiplication de ces universités. Je me rappelle notre rencontre dans la piscine, tu te rappelles, à Gagnères. Et on avait posé la... Moi, c'est une toison. On avait reçu une parole de Dieu juste quelques semaines avant. On était dans le sud-ouest de la France. Et puis une sœur nous dit, j'ai une parole pour vous. Elle dit, dans 5 ans, il y aura un début d'université. Et on s'est dit, mais dans 5 ans, c'est tôt. C'est tôt. Et puis j'ai demandé au Seigneur une confirmation. J'ai dit, Seigneur, si cette parole est vraiment de toi, je savais que Dieu voulait des universités chrétiennes un jour, mais pas dans 5 ans. Voyez. Si vraiment c'est de toi, je vais rencontrer 5 personnes qui ont un doctorat et qui vibrent avec cette vision. Et nous étions à Gagnères, et entre deux réunions, on va dans une piscine, et en maillot de bain, nous avons notre Hugues, et on discute comme ça, et vous faites quoi dans la vie? Tiens, pharmacien, ah oui, docteur en pharmacie, ah oui. Et alors ensuite, je dis, mais et on a parlé de l'université, et ça avait bouillonné dans ton cœur. Ensuite, je vais au café, à Gagnères, je prends un café, puis il y avait une fille d'Inde, une indienne d'Inde, quoi, hein. Elle dit, oui, mais mon père, il est pasteur, il est responsable d'une université en Inde. Et tout. J'étais chrétienne, université chrétienne. J'en ai eu 5. Et vous savez ce qui est né 5 ans après? C'est l'ISP, formation post-bac. Et moi, je crois qu'il y a vraiment ici quelque chose, je ne sais pas si on est conscient, des petites choses. C'est tellement petit, tellement méprisable aux yeux des hommes. Mais il y a quelque chose de Dieu qui veut reprendre un manteau qui est tombé. Ça, c'est vraiment beau. Dans les arts, alors vous savez, ici, on a le collège Mathias Grunewald. Un jour, on avait un ancien élève qui a fait son stage d'infirmerie là-bas, d'infirmier. Et puis un jour, il y a, tout d'un coup, l'infirmier en titre, il est parti, je ne sais pas, quelques minutes, quoi. Tout d'un coup, sur un brancard, on lui amène un élève, tentative de suicide. Il était là avec cet élève. L'infirmier en titre n'était pas là. Mais qu'est-ce que je fais, quoi? Et alors, elle était encore consciente. Elle avait mangé des cachets. Et puis, il lui dit, écoutez, je n'ai pas le droit de vous parler, là, maintenant. Mais je vous donne une lettre écrite. Il a donné son témoignage, courtement. Des mots comme, ne perdez pas espoir. Vous êtes précieuse aux yeux de Dieu. Dieu vous aime, etc. Enfin, quelque chose comme ça. Et cette lettre, manque de peau, elle a été lue par le principal, convocation du conseil de discipline, exclusion de ce jeune immédiate, conseil de discipline à l'école d'infirmerie, exclusion de son école, et il était au collège Mathias Grunewald. Et Mathias Grunewald, c'est le plus grand peintre du XVe siècle qui a glorifié Dieu dans sa peinture toute sa vie. Et je me rappelle, il y a des chrétiens de la région qui ont répondu en disant, comment se fait-il qu'en portant un tel nom, le simple mot de Dieu dans ce collège, ça ait privé un jeune de sa formation et de ce qu'il avait à cœur. Et ça a été une bataille. Et des années après, il a été réhabilité. Mais il avait déjà trouvé sa voie dans la radio chrétienne et c'est parti, il avait fait autre chose, quoi. Mais quand même, et donc les arts, ce rétable-là qui est à Colmar, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des gens qui viennent de l'Europe entière pour le voir, ce truc-là. Et les détails de cet art, les pieds percés de Jésus, vous avez tout le message du salut qui est dans ce rétable, la résurrection de Jésus. Quand vous voyez cette peinture, j'ai regardé un peu sur Internet, il y a des gens qui ont été touchés par Dieu rien qu'à regarder cette peinture. Un peu comme quand on va à Bethel, hein, les gens peignent pendant l'adoration, et des gens sont touchés par les peintures. Mais vous savez que ça, c'était courant. C'était courant. On peignait. Et ce genre de peinture-là, aujourd'hui encore, des siècles après, les gens font des journées de voyage juste pour voir ça. Alors, Alsacien, si tu n'es pas allé voir ça, eh bien, c'est peut-être un péché. Il faut... Donc, les arts, voyez, l'œuvre artistique, des siècles après, qui parle encore de la gloire de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Le 15e siècle, mutation économique. Les autorités civiles, petit à petit, établissent les règles pour le social, par rapport au problème de la pauvreté, pour aussi légiférer par rapport aux abus, répression de la mendicité, etc. Et petit à petit, on voit que ce diaconat de l'Église, petit à petit, va être transféré au niveau des autorités. J'ai trouvé ici un texte de 1519, les frères Fruger, famille catholique, bourgeoise allemande, qui a fait fortune dans le commerce. Et voilà ce qu'il dit, regardez ce fortuné, ce qu'il dit, convaincu d'une part d'être né pour servir la ville. Mais j'ai dit, mais attends, c'est loin de nos principes économiques aujourd'hui. Né pour servir la ville. D'autre part, conscient de notre devoir de restituer à Dieu, grand et généreux, les grands biens qu'il nous a accordés, nous avons par piété, générosité particulière qui doit servir d'exemple, remis et dédié à nos concitoyens pauvres, 106 maisons, maisons, jardins, etc. Donc le gars, il prospérait dans le commerce, mais sa destinée, c'était servir la ville. Comment je peux la servir? Je vais construire des logements et des jardins pour les pauvres. Nous sommes en 1519. Et ça, c'était le début, ce n'était pas encore la réforme. Et quand la réforme est venue, eh bien vous avez le mystère diaconal qui va reprendre, soins des malades, récolte, distribution aux indigents des offrandes de l'Église. C'était très, très organisé, tout ça. Hein. Vous avez à Genève, par exemple, l'hospice général, l'hospice des pauvres, scolarité obligatoire, c'est pas Jules Ferry, c'est l'Église du Seigneur, 16e siècle, implantation de l'Université de Genève, loi pour fixer le prix du pain, afin d'éviter l'inflation. Donc un souci de l'économie, de l'évangile dans l'économie, ça c'était déjà... Alors c'était au début, hein, c'est pas allé jusqu'à son paroxysme. Voilà. Et puis de nouveau, restauration d'université avec le cœur de Dieu, discours évangélique. Et là, je ne résiste pas à vous lire ce recteur d'université, Nicolas Kopp. Nous sommes à Paris, Université de Paris, discours du recteur de l'Université de Paris. Écoutez ça. Et en écoutant ça, vous regardez le cœur de Dieu qui bat au-delà de la structure ecclésiale. Messieurs, c'est une grande chose que la philosophie chrétienne, une chose trop excellente pour qu'aucune langue puisse exprimer la valeur et même qu'aucune pensée puisse la concevoir. Donnée de Dieu à l'homme par Jésus-Christ lui-même, elle nous fait connaître cette vraie félicité qui ne trompe personne, nous faisant croire et comprendre que nous sommes vraiment fils de Dieu. L'éclat de la splendeur de la sagesse de Dieu éclipse toutes les lueurs de la sagesse du monde. Messieurs, il avait toutes les autorités de Paris, tous les magistrats, tous les étudiants, et bam, il commence comme ça. Messieurs, louons les autres sciences, je l'approuve, admirons la dialectique, la philosophie naturelle, l'éthique en vue de leur utilité. Mais qui oserait les comparer avec cette autre philosophie d'un genre à part qui expose que tous les philosophes ont longtemps cherché n'ont jamais trouvé la volonté même de Dieu. Et quelle est cette volonté? La voici, c'est la grâce de Dieu seul qui remet les péchés. Discours de Paris, université. Ça, c'est impressionnant. Alors bien sûr, il a eu des problèmes, ce gars. Il a eu des problèmes. Il a dû vite partir. Parce que là, ça a commencé, la persécution a commencé ici. Et Calvin, très probablement, l'a aidé à écrire ce discours. Et là, ça a commencé à vraiment chauffer. Il y a eu des bûchers, il y a eu des arrestations, etc. Quel courage! Quel courage! Quel courage! À quand les recteurs d'université? Hier, je discutais avec un professeur d'université, une chrétienne, et en biologie. Et elle me disait, elle m'a dit quelque chose qui m'a touché. Elle m'a dit, voilà, je suis là, je veux... D'ailleurs, j'ai fait rencontrer Benjamin Hafner hier, qui est en biologie aussi. Je dis, tiens, je vais te montrer tes profs là, tes futurs profs en master. Voilà, c'est des chrétiens, des adorateurs. Elle a dit, oui, tiens. Et hop, ils ont discuté. Elle a dit ceci, elle a dit, je crois que je suis dans un tel lieu. Et elle m'a dit, je crois qu'un jour, ça va être comme Esther. Il y a un moment où il va falloir prendre position en tant que chrétien dans l'université. Et elle se prépare à ce moment-là. C'est beau ça. Et elle forme tous les professeurs de toute l'Alsace. C'est beau quand même. On a des gens qui sont de qualité comme ça. Mais elle dit, voilà, je sens cette onction d'Esther. Onction d'Esther. Je t'ai appelé pour un jour comme celui-là. Et Dieu est en train de placer chacun de nous, peut-être pour un jour particulier. Voilà. Donc l'instruction obligatoire à Genève, Calvin, vous connaissez déjà. L'Église n'a jamais fleuri sans école. Un jour, on devrait faire un test au niveau de l'Église pour voir si l'ADN est bien passé. Et là, dans ce test, il y aura cette citation. Sinon, on ne passe pas. On passe pas. L'Église n'a jamais fleuri sans école. Envoyez-moi du bois, je vous renverrai des flèches. Il parlait des enfants français. Discours de l'on va passer, les écoles chrétiennes de France. Sachez qu'aujourd'hui, il y a à peu près une cinquantaine de projets en tout. Et ça, c'est 2000 écoles, 30 universités, 20 universités protestantes en France. Et je pense que la vague qui vient va dépasser ça. Et elle va dépasser ça. Pour ça, en tant qu'Église Josué, un de nos mandats, c'est non seulement de croire, mais c'est d'accompagner aussi ce que Dieu fait, en particulier dans ce domaine, même si on n'a rien à faire avec ça. J'aimerais vous donner le témoignage d'un pasteur aux États-Unis, c'était un agriculteur. Et Dieu l'a appelé à prêcher l'Évangile. Il s'appelait Oral Roberts. Et il a commencé à prêcher l'Évangile. Il a commencé à prier pour les malades. Les malades guérissaient. Des campagnes d'évangélisation de 10 000 personnes, nationales, internationales. Il aurait pu dire, ça y est, je suis arrivé, quoi. C'est le top, là. Hein. C'est, les gens guérissent, tout ça. Vous savez ce que Dieu lui a demandé ? Il a dit, je veux de toi que tu bâtisses une université. Il s'est dit, moi ? Mais j'ai jamais mis les pieds dans une université. J'ai jamais fait d'études. Et Dieu lui dit, je veux des cœurs qui croient. Et je t'appelle à ça. Eh bien, dites-moi, c'est impressionnant. Hein. Il s'est mis au travail. Il est arrivé avec une valise, quoi, une vision. Et puis, il a bâti cette université. Aujourd'hui, elle se visite. Et sur le parking de cette université, vous avez une immense statue, à peu près 30-40 mètres de haut. C'est des mains jointes, des mains de prière. Et vous avez une maison de prière, 24 sur 24, au cœur de l'université. Et ensuite, le Seigneur lui a demandé de créer une université pour former des médecins. Et donc, vous avez un hôpital, et il forme les médecins pour le monde entier, avec un cœur missionnaire. Un agriculteur qui n'y connaissait rien à tout ça, et Dieu a dit, c'est toi que je choisis. Donc, voyez, on est tous concernés. Quelques personnalités marquantes, on a Jean-Baptiste de La Salle, ce catholique au niveau de l'éducation. C'est une figure de la France dont on peut être fier, connaître l'enfant, etc. 322 000 enfants à sa mort dans des écoles chrétiennes, hein, l'école normale, des pensions pour les délinquants, des classes professionnelles, école du dimanche, école normale, formation de maître, et tout ça avec le cœur de Dieu. Je peux vous assurer, c'est impressionnant. Les piétistes, ça c'est un Alsacien. On reconnaît bien le profil, le nez, tout ça, on voit bien. Hein, c'est un Alsacien, Spener. Et lui, il a commencé. On se moquait de ces gens. Les piétistes, c'est des gens qui priaient tout le temps, dans des petites cellules. Donc on se disait, mais qu'est-ce qu'ils foutent ces gens ? Et le mot piétiste, c'était pour se moquer d'eux. Et ces gars-là, un jour, ils se sont mis à bâtir des œuvres. Et là, on ne s'est plus moqué d'eux. Parce que quand on a vu la qualité de ce qu'ils faisaient, en particulier les écoles en Allemagne, je pense à Halle avec Franke, etc., les autorités ont commencé à dire respect, respect pour ces gens. Donc, quand il est dit, les gens verront par vos œuvres, et ils donneront gloire à Dieu, c'est ce qui s'est passé. L'origine des écoles professionnelles, c'est les piétistes, les écoles où l'on apprend un métier, tout de suite, assez jeune, c'est le début. Hein, voilà. Ce gars-là, Wilberforce, la politique, la foi évangélique, le discours incroyable en 1789, en moment que la Révolution française, il dénonce la traite des Noirs, il dit que ça va à l'encontre du droit naturel, et ça attirerait sur l'Angleterre un jugement si on continue cet esclavage. Donc une prise de position dans les parlements, ça c'est une œuvre aussi, boycott du sucre, des plantations de canne aux Antilles où les esclaves travaillaient, et la victoire des années après, donc 20 ans de combat, un peu plus, victoire au Parlement. Ça c'est l'action politique, les œuvres dans la politique qui ont marqué l'histoire. Jean-Frédéric Oberlin, donc on est allé avec nos étudiants, on a passé une journée jeudi dernier, là aussi si vous ne connaissez pas ce lieu, il faut y aller, une vallée paumée, comment transformer une région, allez voir ce qu'il a fait et comment il l'a fait, un cœur pour les enfants, un cœur pour les... et c'est dans ce lieu là-bas que sont nées les écoles maternelles, extraordinaire, tous ceux qui travaillent au niveau de l'enfance, il faut faire le pèlerinage là-bas, il faut aller voir là-bas. Est-ce que les enseignants ici, Caroline, est-ce que tu es allée là-bas déjà ? Caroline, c'est pas bien, Caroline. Voilà. Ah oui, oui. Non, non. Il faut aller voir là-bas. Quel cœur de Dieu. Et ce gars-là, on a vu, on est allé sur la tombe. Rassurez-vous, on n'a pas prié les saints. Hein, Delphine, Déborah, tu nous confirmes. Mais sur cette tombe, il y a marqué Papa Oberlin. Et il était le père pour toute une région. Donc éducation, formation pour adultes, les premières bibliothèques, Vallée de Waldersbach, de près, les premières écoles normales, Waldersbach, 18e siècle, fin 18e, les premières institutrices maternelles, Waldersbach. Et tout ça, ça marchait avec l'adoration. Et tout ça, ça s'est passé à 100 km d'ici. Voilà, maternelle. Il y a quelqu'un, un jour, on lui dit à une des filles, Louise Schepler, on lui dit, mais c'est quoi ton programme scolaire ? Est-ce qu'elle a répondu, cette jeune fille ? Mon programme ? C'est la présence de Dieu. Et Louise Schepler, mon programme, c'est la présence de Dieu. Alors les enfants, ils apprenaient tout. Mais, présence de Dieu, voilà. Associer le ciel et la terre. William Carey, et on termine bientôt, la père des missions modernes. Alors lui, il part aux Indes, il arrive, 1818, centaines d'écoles, dans le golfe du Bengale, 10 000 élèves. Alors lui, il s'occupe de tout. Évangélisation, traduction de la Bible, formation, école, université au pluriel, formation de pasteurs, fondation de l'Institut d'agriculture et d'horticulture, coopérative agricole, caisse d'épargne aux Indes, la première, préservation de la forêt indienne, les premières vagues de l'écologie, hein, ouverture de la culture aux langues du pays, réformer les vices de la société, lutte contre les injustices, etc. Ça, c'est les œuvres. Et ces œuvres-là, la prédication d'évangile accompagnée de ces œuvres-là, ça fait quoi ? Ça fait des réformes. Vous voyez, d'où l'épître de Jacques tellement importante. Hein. La foi sans les œuvres, attention. Félix Neff, dans les Hautes-Alpes, lui, il a marché toute sa vie, il est mort jeune d'ailleurs, attention. Et puis, il a implanté la première école normale, en fait, c'est pas tout à, en France, c'est pas tout à fait vrai, puisque au 18e, avec Oberlin, on peut déjà parler de cette école normale. Il a évangélisé les paysans, il allait dans l'école pour une seule ferme, il pouvait marcher une journée dans la neige, juste pour toucher avec la Bible, une seule ferme, paumée dans les montagnes des Alpes. Henri Dunant, ce jeune qui a vécu un champ de bataille, et puis il a vu les blessés, personne ne s'en occupait, il n'y avait pas de vision pour les soins. Le cœur de compassion de Dieu l'a saisi littéralement. Quand il est revenu à la bataille de Solferino, 1159, il a vu les souffrances, il a interpellé la société évangélique de Genève, qui va créer un comité pour les blessés, elle va envoyer 4 infirmiers, et c'est le début de la Croix-Rouge. Compassion de Dieu, Henri Dunant. Un jeune chrétien. Et l'église où ça s'est passé, c'est l'église à Genève avec laquelle on travaille, où Marie, tu as été aussi. Et il y a une plaque encore qui parle ici. Et a démarré l'œuvre de la Croix-Rouge. Alors après, vous avez... Alors c'est toujours pareil, hein. On garde l'œuvre et on enlève le Christ. Hein. Après, on va faire les croissants rouges, etc. Voilà. Mais l'origine, c'est quoi? C'est un cœur de compassion pour les blessés. Et ça donne une œuvre internationale. Je suis convaincu qu'il y a des tas d'œuvres que Dieu a en réserve. Il suffit d'entendre, d'avoir le cœur de Dieu. Et puis un peu d'audace, un peu de courage. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Samson, Jephté, etc. Et je termine, là vous avez les diaconesses, les hôpitaux, lieux d'accueil. Je pense les premières crèches, Émilie Vallée. Je pense les premières colonies de vacances, enfants de familles indigentes, Élise de Pressensé, Baronne de Stael, les visiteuses des hôpitaux, Amy Bost, ils fondent pour accueillir les déshérités. Regardez la devise. Ceux que tous repoussent, au nom de mon maître, je les accueillerai. Voilà les œuvres. Georges Muller, 10 000 orphelins, aucun programme de financement, des dons qui viennent, la foi. Georges Muller, on connaît pas. Liliane Tacher, ses milliers d'orphelins en Égypte. Elisabeth Fry et les prisonnières. Florence Nightingale et la formation des infirmières. Louis-Lucien Rochat, la Croix-Bleue. Philadelphie Delfort, les lépreux. William Catherine Beauce, l'armée du salut. Martin Luther King, etc. Saint-Vincent de Paul, Mère Teresa, Sœur Emmanuelle, Jean Vanier. Tous ces gens qui ont, au travers des œuvres, ont gagné le respect des autorités jusqu'au plus haut niveau de l'État. Est-ce que les gens ont vu les œuvres, voyez? D'autres œuvres encore, les maisons de retraite Bethesda, hein, ARNC aussi, il y a des œuvres. Ça commence à venir. On avait à Paris un rassemblement qui parlait des œuvres. On a fait un peu le recensement. À Toulouse, ils ont démarré une épicerie sociale. C'est toute petite. Ça a pris de l'ampleur. Maintenant, les autorités de la ville travaillent avec l'Église parce qu'ils ont vu l'épicerie sociale. Ils ont vu le travail qu'ils ont fait. Donc, je crois qu'il y a vraiment... Ici, puis l'Institut supérieur, le dernier bébé qu'on vous demande de couvrir, et de prier. Voilà un peu les œuvres. Donc chacun de nous, on est l'ouvrage de Dieu, on a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. On a été créé pour de bonnes œuvres. On a été créé pour de bonnes œuvres. C'est fort, hein, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on a été créé pour les œuvres. Et quelles sont les œuvres, Seigneur, que tu as pour nous? Voilà, je m'arrête ici. On veut simplement prier, et dans toute cette histoire de l'Église, que ça puisse nous inspirer. Peut-être Dieu vous appelle dans un domaine des arts, de l'éducation, des sciences, mais tout va être marqué par la présence de Dieu. Seigneur, merci pour cette variété de ton Église dans l'histoire. Merci pour la variété de la sagesse de Dieu manifestée, qui a béni les nations, qui a inspiré les nations, qui a fait transformer les cultures en amenant une culture avec de l'espérance, de la vie, de la lumière. Et Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, et nous en tant qu'Église aussi, avec Caleb, avec tout ça, avec le cœur pour le monde aussi, il y a toutes ces œuvres qui débutent dans cette vallée de Guebwiller. Nous te prions, Seigneur, de continuer à nous inspirer et que chacun ici puisse trouver les œuvres préparées d'avance que Dieu a pour lui. Seigneur, merci pour ta faveur et merci parce qu'on vit une époque extraordinaire où on peut marquer notre histoire simplement en marchant à ta suite. Dans le nom de Jésus. Amen.